Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais, ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur rage.fr, Spotify ou encore iTunes. Aujourd'hui, on va remettre sur le tapis le sujet de la biodiversité qui est au cœur de l'actualité en ce moment. En effet, les scientifiques de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, à vos souhaits, viennent de publier leur rapport et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très rassurant. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales sur la Terre, 1 million est aujourd'hui menacé d'extinction au cours des prochaines décennies. C'est tout simplement du jamais vu, ça n'a même jamais été mesuré dans l'histoire de l'humanité. Pour discuter de ces enjeux, nous accueillerons Géraldine Audrey, qui est chargée de projet biodiversité à la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, qui viendra nous parler du site Open Science Participative. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est du côté du Royaume-Uni que ça se passe, où le parti travailliste a réussi à faire adopter une motion au Parlement britannique. Les députés ont déclaré l'urgence écologique et climatique. Le Royaume-Uni, devient ainsi le premier pays au monde à déclarer l'urgence climatique, après avoir fait l'objet quand même de nombreux blocages de la part du mouvement Extinction Rebellion, notamment ces derniers mois. Et oui, ça vient pas d'eux sans que personne n'ait mis un peu de pression quand même. Bref, on les accompagne, on va dire. S'il faut rester vigilant, parce que malheureusement cette décision elle est encore non contraignante, elle envoie quand même un signal fort et pourra, je l'espère, servir d'exemple aux autres gouvernements à travers le monde. Et j'accueille tout de suite Géraldine Audrey, qui est chargée de projet biodiversité à la FNH, on va dire FNH, ça ira beaucoup plus vite. Bonjour Géraldine.
Bonjour Julien.
Comment vas-tu?
Bah très bien, je suis contente d'être ici.
Open, merci. Open, c'est le premier portail web entièrement consacré aux sciences participatives en France. J'ai bien révisé?
Ouais, c'est tout à fait bien révisé. Open, en fait, est né d'un constat. Une volonté croissante des citoyens d'agir pour mieux connaître la biodiversité, la nature, et de l'autre côté, des acteurs en fait, des sciences participatives qui avaient vraiment l'impression, la sensation de réinventer l'eau chaude, de ne pas être connectés entre eux, et c'est comme ça qu'est né Open.
Alors Open, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors Open, pourquoi? Open pour Observatoire Participatif des Espèces et de la Nature. Donc comme tu l'as très bien dit, c'est le premier portail en France qui connecte les observateurs aux acteurs des sciences participatives biodiversité exclusivement. Et en fait, il a deux missions vis-à-vis du grand public. La première mission, ça va être de faire connaître les sciences participatives au plus grand nombre. En effet, il y a une étude qui est sortie en 2016, une étude de l'Ipsos, qui montrait que si 66% des Français voulaient bien participer à des programmes de sciences participatives, dans le sens où ils voulaient observer des choses et contribuer à faire avancer la science, seuls 4% d'entre eux savent définir les sciences participatives en France aujourd'hui. Donc voilà, c'est la première grosse mission du site internet. Et la deuxième mission, c'est leur donner un moyen d'agir en fait concret pour leur environnement en les orientant directement vers un site où ils vont pouvoir trouver le programme qui leur correspond.
Ouais, justement, j'allais revenir légèrement en arrière et dire, mais attends, on parle de sciences participatives comme si c'était acquis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Alors, sciences participatives, c'est un mot qui peut faire peur, ouais. On ne sait pas trop ce que c'est. On peut l'appeler aussi sciences citoyennes, c'est le terme anglais d'ailleurs, citizen science. En gros, c'est un programme d'observation qui a été établi par des scientifiques et auquel va pouvoir participer le grand public. Donc, en gros, pour donner un exemple, on a un chercheur qui est à Paris, exemple pris au hasard, qui se pose une question. Il se dit, par exemple, est-ce qu'il y a plus ou moins de moineaux friquets aujourd'hui à Paris? Il se pose cette question. Sauf que comme on ne peut pas mettre un chercheur derrière chaque arbre, derrière chaque bâtiment pour vérifier s'il y a un moineau friquet qui s'y cache, il va créer tout un dispositif avec un protocole scientifique bien particulier pour permettre au grand public de participer. Et ce grand public va pouvoir ensuite prendre ce programme, se l'approprier et observer le moineau friquet et faire remonter les données sur Internet qui vont, in fine, pouvoir servir aux scientifiques.
Et bien justement, tu parles tout de suite de moineau friquet.
Ouais.
Tu vois, dont j'avais jamais entendu parler, de science, de protocole, de tout
ouais,
ça.
Tout
et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même s'y connaître, il faut être très calé dans ce genre de sujet pour participer aux sciences participatives, ou en fait tout le monde peut s'y mettre?
Et bien justement, tout le monde peut s'y mettre, et c'est ça la bonne nouvelle en fait des sciences participatives. Il n'y a pas besoin d'être un amateur. Un amateur éclairé. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste dans le moineau friquet. Justement, l'idée, c'est juste, voilà, on a une heure dans son jardin le dimanche après-midi, on ne sait pas quoi faire. De toute façon, on observe le papillon qui passe ou le moineau qui passe dans son jardin. Et bien l'idée, c'est que quitte à l'observer, autant que ça soit utile. Et du coup, c'est ça en fait les sciences participatives. C'est se dire, personnellement, j'aime plus les oiseaux, par exemple. Du coup, je vais voir les programmes qui existent sur les oiseaux. Et grâce à des fiches qui sont extrêmement simplifiées, qui sont faites justement pour que n'importe qui les comprenne, justement pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, on puisse observer et faire remonter ces données. Donc c'est totalement adapté aux personnes qui ne s'y connaissent pas.
Et partant de ce constat, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui aimeraient participer, peu qu'ils le font, et donc on a des associations, des organisations qui se regroupent pour créer ce portail.
Voilà, en gros, Open, c'est un projet collaboratif qui a rassemblé l'ensemble des acteurs des sciences participatives biodiversité. Aujourd'hui, sur le site, il y a plus de 146 observatoires. Donc, observatoires, c'est des programmes de sciences participatives. Et on a plus de 69 000 participants. Donc, 69 000 participants, c'est les personnes qui vont participer à tous ces programmes d'observation partout en France. Donc, c'est un gros réseau, là, maintenant.
Ouais, c'est un énorme réseau, même. J'aurais pas pensé que c'était autant de personnes. Et donc, on parle de programmes, on parle quand même de fiches qui sont un peu cadrées. J'imagine que ça reste quand même assez cadré, parce que sinon, il y aurait des données qui seraient trop aléatoires et qui ne serviraient pas tant que ça aux scientifiques.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ces programmes sont élaborés par des scientifiques, sont des protocoles particuliers, parce qu'en fait, ça fixe le cadre et parce qu'on ne peut pas s'improviser scientifique en deux jours non plus. Donc, c'est totalement fait exprès. Et donc, voilà, il y a ce dispositif qui est créé avec le cadre et après, la personne n'a plus qu'à se laisser porter finalement dans ce cadre et à participer.
Je balance complètement. Tu es arrivée, toi, Géraldine, avec plein de fiches qui sont étalées sur la table. Et du coup, je me permets de poser des questions assez pointues. Si on va sur le site d'Open aujourd'hui, ouais. Quels sont ces observatoires? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ces choses très concrètes qu'on peut aller observer dès demain?
Oui, alors il y a beaucoup de programmes très différents. Si on aime les cétacés, il va y avoir des programmes avec l'association Planète Mère. Voilà. Si on aime les papillons, il y a sauvage. Enfin, les papillons, ça va être plutôt propage. Si on aime les plants, ça va être Sauvage de Maru, qui est un programme qui est coporté par Tela Botanica et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ou encore la faune, avec Faune et Route. Alors là, c'est la version un petit peu plus triste. C'est d'observer la faune qui a été écrasée sur les routes. Ça se fait notamment en Picardie, ce programme Faune et Route. Bon, après, c'est essentiel de voir cette faune, parce que mine de rien, ça nous informe sur les passages d'animaux, sur leur existence aussi, et du coup sur leur nombre. Donc c'est autant de données qui sont importantes après pour faire un état de la biodiversité.
La plateforme va bientôt fêter ses 1 an. Quels enseignements vous en tirez déjà de cet outil?
De bonnes nouvelles, en fait. De très, très bonnes nouvelles, parce que c'est un site qui a été très, très bien accueilli par le grand public. Comme on le voit, les gens aujourd'hui veulent agir et en fait, en ont marre en fait, un peu des messages. Alors, même si c'est important, ils veulent maintenant s'approprier les choses et agir concrètement. Et c'est un outil qu'on leur offre. Et voilà, en ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et pour les professionnels des sciences participatives, c'est un moyen de se reconnecter. Et voilà, ça a permis déjà des échanges qui ont eu lieu. Donc voilà, que du positif pour ces 1 an.
Mais génial. Nous, on reviendra dans la deuxième partie sur ce lien qui, moi, me pose question entre la technologie, la biodiversité, comment on peut reconnecter l'être humain à la nature, et notamment avec un outil technologique. Et apparemment, tu es venu avec une chanson qui illustre bien ça. On s'aère un peu en musique. Et qu'est-ce que tu nous proposes, toi?
Alors, je propose une chanson de Fekir, qui est un DJ. J'aime beaucoup cette chanson parce que voilà, c'est une musique très électro. Et moi, je trouvais que justement, on était parfaitement dans le thème. C'était comment l'électro, comment la musique électronique pouvait finalement nous reconnecter à la nature. Parce que vous entendrez, il y a des sons de la nature dedans. Et c'est pour ça que je l'aime.
Nausicaa.
Nausicaa.
Allez,
voilà.
C'est parti. Et nous sommes de retour dans Ça commence par moi l'émission. Nous sommes toujours avec Géraldine Audrery qui est chargée de projet biodiversité à la FNH. Pour lancer le sujet de la deuxième partie, je voulais revenir sur le rapport, le fameux rapport de l'IPBES qui a quand même beaucoup de chiffres qui font froid dans le dos. Ça permet de recontextualiser un peu, je trouve ça intéressant, surtout montrer l'urgence de ce sujet. Les trois quarts de l'environnement terrestre et environ 66% du milieu marin ont été significativement modifiés par l'action humaine. On a plus d'un tiers de la surface terrestre mondiale et près de 75% des ressources en eau douce qui sont maintenant destinées à l'agriculture ou à l'élevage. La pollution par les plastiques a été multipliée par 10 depuis 1980 et au rythme auquel vont les extinctions, il faudrait de 5 à 7 millions d'années pour restaurer la biodiversité et revenir au foisonnement de l'ère pré-anthropocène. La liste elle est encore longue, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on a foutu, quoi?
C'est vrai que la liste comme ça elle est assez négative, hein. Elle nous laisse pas beaucoup d'espoir dit comme ça. Bon après, moi je suis une positive et une optimiste convaincue, donc malgré ces chiffres, je pense que la nature peut s'en remettre très bien. Et à la limite, c'est plus par rapport à l'homme. Est-ce que l'homme va si bien s'en remettre par rapport à tout ce qu'on exploite? Et c'est vrai que ça nous interroge pas mal sur nos façons de consommer aussi.
C'est incroyable, en quelques décennies, et particulièrement depuis la période industrielle, on a eu un impact sur le vivant qui a été catastrophique. On a eu tellement d'espèces qui ont déjà disparu. Encore une fois, c'est ce chiffre de 5 à 7 millions d'années qui me choque particulièrement. Ça veut dire que si là, on arrêtait tout, hein, mais dès demain, on arrêtait tout, il faudrait laisser à la nature 5 à 7 millions d'années pour réussir à nouveau à avoir cette biodiversité dans sa variété, dans son explosion de couleurs, de races. C'est incroyable le travail qu'on a été capable d'effacer en quelques décennies, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est assez. Ça peut être assez déprimant. Hein.
Mais oui, je sais. Et du coup, ouais, à chaque fois, je me pose la question. On en parle, on n'en parle pas, on met ces chiffres, mais en même temps, il faut que les gens sachent. C'est dingue, ça devrait être l'urgence. On devrait ne parler plus que de ça, en fait.
Mm-hmm. Bah, c'est non, en parler, et puis c'est surtout avoir, comme je disais, hein, des choix de consommation éclairés par rapport à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire 5 à 7, 6 millions, comme tu disais. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça quand on a une vie d'homme? Voilà, tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est agir en fonction de ses croyances et de ce qui nous semble être le meilleur. Et dans ces cas-là, agir en fonction... Moi, ça sera en fonction de mes choix de consommation. Par exemple, décider de manger moins de viande. En l'occurrence, plus manger de viande, ce qui est mon cas, mais voilà.
Donc effectivement, on a toute une partie consommation, changement de ses habitudes. Mais il me semble aussi qu'au-delà de simplement se dire on va être le moins destructeur possible, on a une reconnexion à faire, une recompréhension de notre milieu et du lien entre l'être humain et le vivant. On n'est pas au-dessus, on en fait partie, on est la nature qui se défend, comme disaient ces jeunes étudiants dans leur slogan pendant les manifestations. Vous, avec Open, mine de rien, vous pensez que cette reconnexion-là, elle peut se faire à travers la technologie?
Non seulement on pense qu'elle peut se faire, mais en plus on pense qu'elle doit, et surtout elle va se faire, parce que ce qu'on observe de plus en plus, c'est que finalement les gens ont envie de se reconnecter à la nature. Après, j'ai l'impression qu'après cette phase où il y a eu une certaine déconnexion à la nature, avec le tout technologique, le tout faux, le tout moderne, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les gens ont plus envie d'être dans la nature. On a besoin d'être dans un parc le week-end. Tout le monde est dans les parcs le week-end à Paris, c'est blindé. Et Open, c'est un moyen de sortir, en fait. C'est un moyen de sortir ou juste d'aller dans son jardin ou juste de regarder la nature qui nous entoure de façon utile. Et en ayant cette sensation, justement, de vrai, nous aussi, un peu pour la préservation de la nature. Et en même temps, d'apprendre des choses sur la nature. Parce que je pense que voilà, quand on apprend mieux et quand on connaît mieux la nature, on a plus envie et on la préserve mieux.
C'est pas contre-intuitif quand même de se dire qu'on doit utiliser la technologie, notamment un smartphone, un ordinateur, pour recréer ce lien avec le vivant, alors qu'on pourrait penser aussi que c'est une des raisons pour lesquelles on a été si non seulement éloigné, mais avec un impact aussi nocif. Toute l'extraction de ces ressources, ce gaspillage, cette surconsommation, c'est aussi représentatif de ces biais technologiques dans lesquels on est tombé.
Finalement, moi j'ai l'impression que les biais technologiques dont tu parles, la technologie c'est un outil. Et moi j'ai toujours dit, un outil on en fait ce qu'on veut. C'est comme un couteau. Un couteau, soit tu coupes une part de gâteau pour passer à tes amis, soit tu tues quelqu'un. Enfin voilà, c'est un outil. Et la question c'est qu'est-ce que tu mets derrière cet outil en fait? Quelle est l'intention que tu donnes à cet outil? Et c'est ça en fait le truc. C'est que Open, on a un outil qui est là, qu'on a créé. Et toute la volonté derrière, ça a été de dire on veut vous reconnecter à la nature, on veut vous permettre d'agir pour la nature. Et il existe Open, mais il en existe plein d'autres. Et c'est ce qu'on observe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'applications par rapport à la nature qui sont en train de se créer. Il y a BioDivGo, il y a PlanteNet. Voilà, je pourrais toutes les citer.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est notamment PlanteNet ?
PlanteNet, c'est par exemple une application où on observe une plante, on ne sait pas l'identifier, on la prend en photo, on donne les 2-3 caractéristiques. Donc ça aussi, c'est très simplifié. Est-ce que les feuilles ont cette forme ? Et on sait quelle. Après, l'idée, c'est qu'on découvre à la fin quelle est cette fameuse plante. Et au passage, on participe à une meilleure connaissance de la biodiversité qui nous entoure pour les chercheurs. Donc voilà, ça c'est des applications, mais il y a aussi plein de choses. Il y a l'open data qui s'est développé, il y a les do-it-yourself, il y a les sites où on peut troquer des choses. Donc finalement, la technologie, c'est un outil. Et moi, ce que je vois, et je suis encore très optimiste, mais ce que je vois, c'est qu'on en fait plein de choses magnifiques finalement pour la biodiversité. On peut.
69 000 personnes en un an.
Oui, c'est ça. Alors 69 000 personnes, c'est pas que sur le site internet, hein, ouais. C'est parce qu'il n'y a pas d'inscrits sur le site internet en lui-même, mais c'est 69 000 observateurs répartis un peu partout en France à travers tous ces programmes de sciences participatives.
J'ai besoin que tu me donnes une mesure pour comparer à quel point c'est impressionnant ou pas. Est-ce que d'autres observatoires, d'autres études, d'autres campagnes avaient réussi à mobiliser comme ça quelques dizaines, centaines de milliers de personnes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est jamais vu en France ?
J'aurais pas d'exemple à ma connaissance, j'en vois pas, parce que les sciences participatives, c'est quand même quelque chose qui s'est créé progressivement, donc il faudrait un objet comparable, en fait. C'est quelque chose qui s'est créé très lentement, c'est une science qui vient d'Angleterre, du Royaume-Uni, à la base, les citizen science. Donc voilà, c'est à la base, oui, voilà.
Vous aviez un objectif, vous pensiez atteindre comme ça 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Est-ce que vous avez des objectifs, même pour 2019 ? Les beaux jours arrivent. J'imagine que vous allez remettre le paquet sur la plateforme pour que le plus de personnes possible en entendent parler.
Oui, c'est d'ailleurs ça, c'est prévu. Et je suis d'autant plus contente d'être là aujourd'hui parce que justement, on travaille sur une nouvelle campagne de communication qui sera surtout dédiée à la presse pour parler d'Open. Parce que justement, comme tu dis, les beaux jours arrivent. C'est là où les programmes fleurissent, littéralement. Et c'est là où on a envie de sortir, en fait, et de voir la biodiversité qui nous entoure. Donc c'est le moment parfait pour relancer ça.
Pour donner envie aux gens qui nous écoutent, je me dis qu'il n'y a rien de mieux que de parler de ceux qui ont déjà fait et qui ont témoigné de leur expérience. J'ai vu que sur la plateforme, il y avait tout un tas de témoignages. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, des récits, des témoignages particulièrement marquants qui pourraient donner envie aux gens de s'y mettre aussi ?
Alors, j'ai le mien. J'ai participé à un des programmes qui s'appelait Vigikiro quand j'étais encore étudiante. Vigikiro, ça consiste à aller écouter les chauves-souris la nuit avec un appareil particulier qui enregistre les ultrasons. Donc, c'était très drôle parce que voilà, ça commençait vers 22h. C'est le soir, hein, évidemment, du coup, qu'on enregistre ça. J'avais embarqué mon conjoint là-dedans. Et qui était désespéré parce que ça a duré, selon lui, beaucoup trop de temps, mais c'était un excellent souvenir parce que du coup, voilà, même si sur le coup, on n'entendait pas forcément grand-chose, parce que là, en l'occurrence, c'est Vigikiro, donc c'est des ultrasons, donc on n'entend pas forcément les chauves-souris. Après, c'était un pur bonheur retourner au muséum et écouter les sons, et en fait, c'était une surprise. C'était qu'est-ce que je vais entendre à ce point d'observation ? Il y avait 10 points. Et là, on écoutait des sons que j'avais du coup pas entendus et que j'entendais jamais dans ma vie quotidienne. Et là, on découvrait qu'en fait, il y avait des chauves-souris autour de moi à ce moment-là. Il y avait un grillon qui faisait un son de lion dans la savane. C'était un truc complètement étonnant. Voilà, on m'a dit, c'est une espèce particulière. T'étais à côté du parc Montsouris, c'est normal, il y est. Voilà, moi, c'est autant de choses où je me suis dit, j'aurais jamais pu le palper. En fait, j'aurais jamais pu le voir dans des conditions normales autres qu'en participant à ce programme-là.
Et donc, participer à un programme, est-ce que ça peut se faire à la fois de manière complètement autonome ? On se dit, demain, j'ai un peu de temps et je peux faire tu disais, dans un parc, dans son jardin. Mmh. Est-ce que ça peut être aussi rejoindre des groupes pour des temps un peu plus ponctuels ? Mais là, on est accompagné avec par des spécialistes même. Mmh. Et donc, du coup, il y a cet intérêt un peu aussi pédagogique ?
Oui, tout à fait. En fait, les deux sont possibles, en effet. On peut le faire, comme tu disais, en toute autonomie. Et c'est ça aussi le gros point positif des sciences participatives, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de s'engager, parce qu'on voilà, on a observé en plus que l'engagement en France était assez compliqué, contrairement en Angleterre, encore une fois, où ils n'ont pas de problème à s'engager sur de longues durées à participer à des programmes. Là, en France, il y a des études qui ont été observées, où on voit que voilà, on a un peu plus de mal sur le fait de s'engager longtemps.
Nous, on butine.
Ouais. On aime bien faire des petits programmes de temps en temps, et pour ça, les sciences participatives biodiversité sont bien. Mais on peut aussi, comme tu le disais, participer en groupe, avec un animateur qui nous explique en plus, du coup, la particularité de telle ou telle espèce. Voilà.
C'est hyper intéressant, j'imagine, d'avoir ces spécialistes, parce qu'on voit en général les gens qui s'y connaissent à fond dans les documentaires, mais après, pour nous transmettre cette passion, il n'y a quand même rien de mieux que la rencontre. J'imagine que tu n'es pas partie toute seule voir les chauves-souris, pardon.
Alors, pour le coup, là, j'étais toute seule.
C'est vrai, mince.
J'étais toute seule, mais bon, c'était un peu biaisé, c'était dans le cadre de mes études. Donc, mais c'est vrai que quand on est, quand on est novice dans le sujet, il n'y a rien de mieux que d'avoir un spécialiste qui nous explique tout ça. Il y a d'autres programmes qui existent dans ce genre-là. La Fondation a aussi un programme qui s'appelle J'agis pour la nature, où le principe, c'est également de renvoyer le grand public vers des actions de bénévolat nature, où il y a aussi des spécialistes qui vont pouvoir nous faire découvrir la biodiversité. Alors, là, on va même plus loin sur J'agis pour la nature, c'est plus généraliste dans le sens où on va même pouvoir mener des activités type on creuse une mare, on plante des haies, on ramasse des déchets, on s'occupe de la faune sauvage. Donc voilà, c'est plus du bénévolat nature pur.
Ça, c'est sur le site de la FNH ?
Alors ça va être sur le site jagispourlanature.org, qui est un autre programme de la fondation de la FNH. Ouais.
Et sinon, on peut aller sur le site de Sciences Participatives. Donc voilà, c'est... open-du6-science-participative.org. Bon, en gros, tapez Open Science Participative sur votre moteur de recherche, hein, Ecosia et Lilo, bien entendu, et vous trouverez. Et donc ensuite, là, on se retrouve sur une plateforme. Ça peut être un peu intimidant. On imagine qu'il y a tout un processus d'inscription, alors qu'en fait, c'est assez simple. Hein.
En fait, non, voilà, c'est ça l'idée. On a voulu le faire de la façon la plus simple possible et de la façon la plus ludique. Parce que c'est l'idée, c'était de s'adresser à des personnes qui ne connaissaient pas forcément les sciences participatives et qui, quand elles arrivaient là, fallait qu'elles aient envie d'y aller. Et du coup, l'idée, c'est ça. C'est on arrive sur le site internet, on peut choisir un programme qui nous correspond en fonction de différents critères. Donc, moi, j'aime particulièrement plus les papillons ou les oiseaux. Ou, par exemple, je vais choisir en fonction de thématique, être plutôt dans le jardin, être en forêt, être à la mer... En fonction de mon niveau aussi, parce que du coup, comme on le disait tout à l'heure, il y a des programmes qui sont adaptés aux novices, mais aussi des programmes qui sont adaptés à des personnes qui s'y connaissent un peu plus, à plus des naturalistes. Et en fonction de tous ces critères, je vais trouver un programme qui me correspond. Et une fois que j'ai trouvé mon programme, je clique sur « Je participe » et là, je suis automatiquement redirigée vers le site du programme en question. Donc c'est vraiment une vitrine qui donne de la visibilité à ces programmes de sciences participatives.
Par contre, sur le site du programme en question, il y aura sans doute après le login, tout ça,
voilà.
Tout ça.
Et c'est arriver sur le site qui est une inscription.
Ouais. Et du côté des scientifiques, je me posais la question de savoir si vous aviez eu des retours, vous, sur toutes les données que vous avez permis de collecter. Est-ce qu'il y a eu de la surprise ? Est-ce qu'il y a eu de la surprise tant dans la quantité que de la qualité ? Est-ce que ça concrètement... Qu'est-ce que ça donne ? On a envie de savoir.
Concrètement. Ben alors concrètement, ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que les chiffres dont tu parlais tout à l'heure de l'IPBS, les chiffres qu'on a beaucoup vus aussi l'année dernière par rapport au déclin des oiseaux spécialistes, tous ces chiffres-là, on s'interroge rarement d'où ils viennent, mais en fait, ils viennent des sciences participatives. C'est grâce à ça qu'on a ces données, et c'est grâce à ça qu'on a des lanceurs d'alerte qui peuvent dire, on a une diminution de la biodiversité de X% par an, et c'est autant de résultats concrets qui nous permettent déjà d'être alertés, et ensuite, une fois qu'on est alerté, de pouvoir agir.
Mais alors, du coup, ça veut dire... Moi, ça m'a toujours posé la question, je me permets de te la poser. Mm-hmm. On dit qu'il y a eu tant d'espèces disparues depuis 1850, depuis même avant. Comment on savait ? Comment on a eu ce suivi, ce détail dans l'information relevée ? Puisque aujourd'hui, je comprends assez bien qu'effectivement, les sciences participatives, toutes les technologies dont qu'on a à disposition, mm-hmm. nous permettent d'effectuer ce suivi très précis. D'où est-ce que ça vient, toutes ces informations ?
Alors, en l'occurrence, les données dont tu parlais par rapport aux oiseaux, c'est le plus ancien programme de sciences participatives en France, le programme STOCK, suivi temporel des oiseaux communs, qui nous a permis de le connaître, parce qu'en fait, il existe depuis le 19e siècle, il existe depuis très longtemps.
Ah oui.
Donc, c'est pour ça qu'on a ces données, en fait, qui sont très anciennes. Après, ça va dépendre, évidemment, en fonction des espèces. Il y a des espèces qu'on observe moins, il y a des espèces un peu moins sexy pour les personnes. Donc, on aura moins de données sur elles.
J'ai quand même l'impression que finalement, ce que tu nous dis, c'est que la technologie, elle a un vrai intérêt quand en fait, on a besoin d'un détail très fin sur la situation actuelle. Et que la situation en plus liée à la biodiversité, aux écosystèmes, à l'équilibre de notre planète est tellement changeant qu'on a besoin d'avoir une vision avec énormément d'indicateurs pris dans le plus d'endroits possible, de la manière la plus neutre possible, la plus cohérente possible. Mm-hmm. Et que finalement, l'intérêt de la technologie, il est là.
Il est là, il est aussi dans le stockage des données, parce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile de stocker un nombre important de données, dans la précision, comme tu le disais. Et puis aussi, c'est ça, dans son aspect géographique, quoi. On va toucher toutes les zones, par exemple, de France. Il y a des programmes qui sont nationaux. Donc, c'est, dans ces cas-là, c'est extrêmement intéressant d'avoir un seul endroit, même si Open n'est pas un site de données, d'avoir des programmes de sciences participatives nationaux qui vont pouvoir récolter toutes ces données, les analyser de façon extrêmement scientifique et vraiment très carrée. Parce qu'il y a une rigueur scientifique sur laquelle insistent vraiment, comme tu le disais, les scientifiques là-dessus. C'est que voilà, on est sur des programmes où il y a eu un dispositif, un cadre qui a été préalablement établi. Donc.
Et tu parlais du national, est-ce qu'avec l'international, Open a des liens ou des cousins éloignés dans d'autres pays? Est-ce que vous avez créé des connexions?
Alors, pas encore. Pour le moment, on en est à la sphère française. Maintenant, oui, il existe en effet des sciences participatives ailleurs. Comme je te le disais, il y a des sciences participatives au Royaume-Uni. Il y a un site qui s'appelle Zoo Universe, que je vous recommande d'aller voir parce que du coup, il est sur la biodiversité, mais il est sur plein de choses aussi. Il va parler des planètes, on va avoir des sujets santé. Voilà, c'est beaucoup plus large. Comme quoi, les sciences participatives peuvent toucher vraiment tous les domaines. Et alors, sinon, enfin, voilà, si vous êtes un fanat de médecine du dimanche, vous pouvez participer à votre échelle aussi à faire avancer la médecine. Enfin, voilà, c'est autant de choses qui existent. Maintenant, voilà, on n'a pas de données, enfin, on n'a pas de connexions qui ont été faites précisément encore aujourd'hui, mais pourquoi pas à venir.
Je profite des 30 dernières secondes qui nous restent, Géraldine, pour redonner le site d'Open, qui est donc Open Sciences Participatives, tout attaché avec des tirets, et au pluriel.org. Et j'en profite également pour dire, bon, voilà, les gens maintenant ont atteint ce niveau, ou sont en train d'atteindre ce niveau d'urgence, hein, de prise de conscience par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de la biodiversité. On a parlé d'Open, on a parlé des sciences participatives. Tu disais en quelques mots qu'il y avait d'autres actions qu'on pouvait mettre en place. Toi, t'es devenue végétarienne. Est-ce qu'il y a deux, trois autres pistes que tu peux nous tendre pour donner aux gens des occasions d'agir tous les jours?
Bah alors moi, je dis toujours que la meilleure façon d'agir, c'est vers sa consommation. Et donc oui, comme tu disais, par rapport à l'alimentation, mais je pense qu'il y a aussi la consommation d'objets, oui, plus responsables, mais aussi des objets auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent nous rendre en meilleure santé, qui, dans de prime abord, on n'a pas l'impression qu'ils vont servir à grand chose pour la biodiversité, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en étant en meilleure santé, on utilise moins de médicaments, on utilise moins de choses qui sont néfastes. Et en fait, c'est des choses indirectes, mais qui ont un impact vraiment positif. Je ne sais pas, on peut citer un tapis de yoga, un bon tapis de yoga pour du yoga le dimanche.
Ouais,
être en meilleure santé, c'est
important.
Et
le parallèle est intéressant, c'est-à-dire qu'on protège le vivant que nous sommes nous-mêmes.
On commence par se protéger.
Pour protéger le vivant. Mmh. Ça commence par moi, c'est pas mal ça. Merci beaucoup Géraldine pour cette demi-heure passionnante. Et on vous donnera, nous, plein d'autres informations sur Open, sur les réseaux sociaux. Allez, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté. Merci à Raph, bien malade aux manettes, et merci à Rage pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur rage.fr, Spotify ou encore iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!
Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.